Rémy de Gourmont, le marbre et la chair. Un atelier de sculpture affirme la supériorité de l'art sur la vie. Combien la chair est triste près de la joie lumineuse du marbre, modeste près de la gloire des bronzes. À première vue, l'impression de nu féminin parmi le nu marmoréen est pénible. On est contrarié par le ton de la peau, ce mélange de rose et de jaune, par la mobilité de la face et des muscles de tout le corps, brisés souvent en une attitude sans grâce, par les cheveux, par d'autres ombres, par l'absence de calme et de lignes fixes, et aussi de ce que l'on sent de fugitif, de personnel, en l'académie correcte de cet être qui s'érige bêtement, nu et ennuyé, sur une table. C'est bien vraiment là que l'on comprend à quel point existe peu, en soi, la beauté individuelle et extérieure, à quel point une créature quelconque, pierre ou arbre, bête ou homme, est incapable de se réaliser par ses seuls moyens naturels, ses seuls moyens de vie. En somme, elle n'arrive à la réalité qu'après avoir été manipulée, recréée, évoquée par l'art ou par le désir, qu'on peut appeler aussi l'amour. Ces petits modèles que l'on voit partout, multicolores dans les rues, unicolores dans les ateliers, ces petites italiennes sont fort insignifiantes, d'un charme médiocre, guère jolies et souvent lourdes dans leur sérieux de madone. Mais qu'elles soient désirées par l'artiste ou désirées par l'amant, elles les voilà égales peut-être aux plus hautes divinités. La matière, telle que créée ou telle que née, est essentiellement amorphe, sous une apparence formelle, sous l'illusion d'un contour précis. Et c'est à l'intelligence de lui donner sa forme vraie, c'est-à-dire sa destination et sa place dans la hiérarchie des œuvres d'art ou d'amour. De toutes les créatures amorphes, la femme, à quelques exceptions près où l'âme mâle s'est logée en l'enveloppe femelle, est idéalement la plus malléable et la plus inconsistante. Celle qui subit le mieux les empreintes, mais aussi celle qui les garde le moins profondément. Elle ne s'épanouit en sa réelle et définitive nature que sous la mainmise incessante et impérieuse de la force. La statuaire où il faut du génie et des muscles, de l'intrépidité et de l'endurance, est évidemment l'art qui la domine le mieux et la réalise le plus sûrement. En pierre, en marbre, en bronze, elle est vraiment éternelle, elle est vraiment l'indestructible idée. Ces réflexions m'étaient l'autre jour suggérées par les œuvres vues dans l'atelier du maître Rodin et aussi par les paroles que j'entendis là d'un artiste qui comprend son art autant qu'il l'aime. Il me montrait des petits plâtres infiniment travaillés, figurines minimes à tenir dans la main et tellement étudiées, modelées, d'un doigt si sûr et si amoureux qu'elles étaient d'immenses et palpitantes vies des relations de microcosme. Pour M. Rodin, le mode est tout et n'est rien. Il est tout comme matière, comme indispensable cire, mais il n'est rien comme exemple, comme chose à copier. Il décompose son modèle, il le repétrit, il le déforme et le reforme, il le grossit, il le maigrit, il lui donne l'ampleur royale des chairs pleines et riches, il le décharne, il l'amène à dire la dévastation des plus pitoyables douleurs. On ne verra jamais sorti de ses mains deux identiques formes, encore que le même modèle puisse à l'occasion l'inspirer deux fois. De tels sculpteurs estimés, on reconnaît infailliblement les œuvres, à ceci qu'on met sur le marbre le nom du modèle connu. C'est le clichage ou l'autocopie appliquées à la sculpture. C'est le métier dans ce qu'il a de moins inventif et de plus fructueux. Car l'amateur innocent est flatté, s'il a du premier coup d'œil deviné que seule l'habileté de tel membre de l'Académie des Beaux-Arts a pu imiter avec autant d'aisance les charmes aimés d'une Diane, dont la triste vocation est d'essayer de paraître surprise tandis qu'au fond, elle se demande tout simplement à quelle sauce poivrade ou chasseur on mangera le lièvre attique que ses lèvres transpercent. La statuaire de Rodin est au contraire caractérisée par l'invention. Il s'ingénie à faire exprimer au marbre ou à la pierre du nouveau, toujours du nouveau, tantôt par la composition, tantôt par l'attitude, par l'expression. Ici, en effleurant à peine, là, en poussant jusqu'à l'affirmation la plus péremptoire et aussi la plus harmonieuse, les ondes charnelles. Ce contraste est indiqué dans le groupe d'Orphée et Eurydice, où tandis qu'Orphée se réalise vivant par son retour à la lumière, Eurydice se vaporise et s'efface, retourne aux limbes dans une brume d'indicible mélancolie. Et près de cette figure de rêve, voici minutieusement modelée, merveilleusement finie, comme il sied d'une œuvre divine, l'Ève toute neuve, ingénue et glorieuse. Le maître m'explique ses études, puis à propos du salon dont il s'abstient, il me donne, indulgent, le secret de l'abondante production des pseudo-statuaires qui prochainement vont exhiber leur puérilité. Ce secret, c'est le moulage sur le vif. Procédé commode, rapide et à la portée de tout le monde, pourvu que l'on puisse se procurer de bons mouleurs, et pour le marbre d'habiles praticiens qui corrigent, s'il y a lieu, les imperfections du modèle, qui mettent la nature au point. Mais ces façons sont si humiliantes qu'il ne faut pas insister. C'est même d'ailleurs sans intérêt, ainsi que tout mensonge. Comme Barillet, comme Frémiet, et comme tous les artistes proches qu'instruisirent les déboires de leur maître, Rodin ne fait pas reproduire ses œuvres industriellement. Les reproductions en marbre se font sous ses yeux et avec son intervention constante et directe. Il ne pourrait souffrir à n'importe quel prix que la moindre de ses statuettes fût déshonorée par une exécution hâtive et simplifiée. C'est pourtant ce qui arrive aux artistes tombés aux mains d'éditeurs peu scrupuleux, de bronziers ou de marbriers ignorants et avides. Je lis à ce propos dans le dernier fascicule du Mercure de France une fort édifiante lettre inédite de Clésinger, qui fut toute sa vie et jusqu'à sa mort la proie des marchands de pendules artistiques. On lui reproduisait ses œuvres au moyen de la réduction. Colas et quand elles avaient passé par le réducteur, par le fondeur, par le monteur, par le ciseleur, ou plutôt le ratisseur, elles étaient devenues si méconnaissables que la signature était une véritable tricherie. Mais ce bronzier, fort d'un traité imprudent, ne se bornait pas à corriger l'œuvre du sculpteur. Il voulait lui dicter ses propres conceptions, et ici, cela devient amusant. Voici ce que trouvait l'industriel, je cite. Comme preuve de son goût artistique, dit Clésinger, je possède certaines commandes écrites de sa main. L'ange de l'assassinat assis sous un pommier en Normandie, écoutant la voix, et la mariée marchant à l'autel voilée, les yeux baissés, son livre à la main. Sujet qui devait nous conquérir toutes les sympathies des mères de famille. Faites-moi la Cornélie, cette mère, etc. Je vous donne des dimensions. Il faut que le groupe soit une pendule. Votre composition est belle, mais elle ne fait pas pendule. Voici le socle. Oh, ce voici le socle est merveilleux. Mais voyez donc un grand artiste pour être traité de la sorte. En principe, l'œuvre d'art doit être unique. Tout au moins, ne doit-elle être reproduite que par l'artiste lui-même sous sa direction. Mais peut-être bien aussi que la mission de l'industrie est de vilipender les chefs-d'œuvre, de les amener à un tel degré de ratissage que l'on confonde sous le même mépris affligé Soitou et Clésinger, Bartholdi et Rodin.